Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite, présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, c'est le SEO qui prend la place sur le podcast. Laurent Brice, spécialiste en la matière, vient nous livrer une étude de cas de haut vol, nous expliquant tous les bienfaits que le référencement naturel peut avoir pour votre croissance. Bonne écoute! En tant qu'expert en e-commerce, il est important de rester informé des tendances émergentes qui impacteront notre secteur. L'année 2023 promet d'être riche en évolution pour le shopping en ligne et ça tombe bien parce que le journal en ligne Codeur vient de sortir un article sur les 14 tendances e-com à suivre cette année. Et on en fait le récapitulatif dans cette chronique. Tendance numéro 1, l'intelligence artificielle. L'IA sera de plus en plus présente dans les e-commerce, bien qu'elle ne soit pas encore au point pour la rédaction web. Elle peut être utilisée pour améliorer les services clients lorsque les équipes ne sont pas disponibles. Je dois le dire personnellement qu'on commence drastiquement à l'utiliser sous toutes ses formes, que ce soit avec ChatGPT, quand il n'est pas plein à craquer d'utilisateurs, et DALL-E pour la partie acquisition. C'est un service qui vous génère des images à la demande et dont vous avez les droits commerciaux. On fait quelques tests aussi sur CopyAI, qui a une multitude de fonctionnalités diverses et variées, allant de la création d'articles de blog, de pages produits ou même de la déclinaison de titres et tout autre élément rédigé pour des publicités. C'est indéniable que cette technologie va étendre son emprise dans le e-commerce, car la création de contenu est ultra importante, que ce soit sur le site, l'emailing ou les réseaux sociaux par exemple. Tendance numéro 2, écologie. Il est important de noter que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental de leurs achats en ligne. Codeur s'appuie sur plusieurs chiffres comme 63% des Français souhaitent consommer de manière plus responsable et 77% sont même prêts à renoncer à des produits d'une marque dont les modes de production sont néfastes pour l'environnement. C'est pour cette raison qu'en position numéro 3, on retrouve le re-commerce, soit le commerce de seconde main qui continue sa croissance. Tendance numéro 3, méthode de paiement. En 2023, les consommateurs s'attendent à une expérience de paiement fluide et rapide lors de leurs achats en ligne. Le paiement instantané est devenu incontournable. Les consommateurs sont habitués à régler leurs achats en quelques secondes sans démarche compliquée. On en a déjà parlé dans d'autres chroniques, mais 2022 a vu l'explosion de la méthode BNPL, Buy Now, Pay Later. C'est évidemment une conséquence directe de cette tendance qui se prolonge encore et encore. Codeur cite bien d'autres méthodes pour améliorer l'expérience d'achat, les paiements en un clic avec Amazon Pay, Apple Pay ou PayPal Checkout, l'évitement d'une création de compte, la sauvegarde de données pour de futurs paiements, un bouton commande directe sur les fiches produits et faciliter les commandes via la messagerie instantanée notamment. Tendance numéro 4, le CDP. Je ne pourrais pas mieux l'introduire que Codeur le fait, dont je vais les citer. Le CRM est mort, vive le CDP. Un CRM, c'est un service de gestion de données clients, mieux connu en anglais sous le nom de Customer Relationship Management. Sa grande limite, vous sortir précisément le comportement en ligne et hors ligne de vos clients. Et ça, c'est ce qu'un CDP peut vous obtenir. Le CDP pour Customer Data Platform vous offre des informations détaillées sur les parcours d'achat des clients ainsi que sur les produits et services qui les intéressent le plus. Sans surprise, ça vous permet de suivre les interactions des clients à travers différents canaux tels que les réseaux sociaux et les médias payants afin d'établir des actions marketing beaucoup plus personnalisées. L'un ne doit pas remplacer l'autre par contre. Comme Facebook Ads et Google Ads sont très puissants, ils sont davantage ensemble et complémentaires. C'est pareil avec le CDP et le CRM. Et je vous laisse l'article dans les notes de l'émission. Vous pourrez retrouver toutes les autres tendances que je n'ai pas citées. Mais c'est plutôt bien expliqué et certaines tendances se recoupent avec celles dont on a pu parler dans les épisodes précédents de Commerce Élite. Si on veut aller vite, on utilise la publicité payante. Si on veut installer quelque chose qui va perdurer à travers le temps, on bâtit une stratégie de référencement naturel. Et si on veut avoir un commerce élite, on s'assure d'avoir les deux. Aujourd'hui, Laurent Brice est avec nous afin de nous livrer un cas pratique d'une boutique en ligne qui, sur 10 ans, a su augmenter à chaque année son empreinte SEO pour maintenant générer des millions de dollars grâce à cette approche. Soyez prêts, ça commence maintenant. on est de retour pour le podcast Commerce Élite et cette fois-ci dans le mode discussion avec Laurent Brice parce qu'on va parler cette fois-ci d'un sujet qu'on n'a jamais eu la chance encore de parler sur le podcast, le SEO pour une boutique en ligne. Comment le SEO peut-il nous aider en 2023? On parle souvent de canaux payants sur le podcast, on parle également de email marketing, mais pas encore de référencement naturel. Et ça va être le sujet du jour, mais avant toute chose, Laurent Brice, comment ça va aujourd'hui?
Ben, ça va très bien. Et toi, Antoine, comment ça va?
Ça va très bien, merci de le demander. Vendredi, fin de journée, on va discuter SEO. Je sais que c'est une de tes passions et que tu le fais depuis excessivement longtemps, Laurent, plusieurs dizaines d'années même. Peux-tu nous dire peut-être, qu'est-ce qui t'a amené à la base à vouloir te spécialiser autant dans le SEO?
Eh ben, écoute, merci de m'accueillir sur ton podcast, Antoine. J'ai commencé à écouter quelques épisodes, je trouve ça super intéressant. Donc, je suis très content d'être avec vous, avec toi et tes auditeurs. Et surtout si on n'a jamais parlé du SEO, parce que moi, c'est effectivement ma passion. Je fais ça depuis, je pense, à peu près 15 ans maintenant. Et en fait, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé le SEO en 2007, parce qu'à cette époque-là, j'ai fondé un premier site e-commerce avec deux associés. Et donc, on a lancé notre site. Et puis, on s'est rendu compte qu'on faisait pas trop de ventes. On a essayé différents canaux d'acquisition. Et on n'avait pas forcément des super résultats. Et c'est quand vraiment, moi, je me suis retroussé les manches et j'ai mis les mains dans le SEO qu'on a commencé vraiment à décoller. C'était un site qui vendait des produits de déco, hein, pour simplifier. Et quelques mois après, en bossant vraiment bien sur le SEO avec les techniques de l'époque, hein, qu'on vient d'évoluer depuis, on arrivait à faire plusieurs milliers de visites par jour sur le site. Et à la fin, ça faisait 80-90% de notre chiffre d'affaires. Et une fois qu'on a fini cette aventure, en fait, on a vendu le business. Ben moi, la chose que je faisais le mieux, c'était le référencement naturel. Et c'est assez naturellement que je me suis mis à faire ça à temps plein, en fait, en tant que consultant d'abord, puis après à travers une agence que j'ai montée en 2014.
Et bon, on va parler d'un des cas clients que tu as mené à l'intérieur de ton organisation. Et c'est un cas client qui a l'air d'être satisfait parce que ça fait 10 ans maintenant qu'il est client chez vous, peut-être même un petit peu plus. L'entreprise se nomme Apiculture. Je pense qu'il y a déjà des études de cas sur votre site Internet en ce moment qui témoignent un petit peu de tout ça. Et comme on aime bien faire sur Commerce Élite, on aime rentrer dans le vif du sujet de donner des cas pratiques à notre audience. Peux-tu nous parler un peu qu'est-ce que Apiculture, qu'est-ce qu'ils font, quels étaient peut-être leurs défis avant que vous preniez le mandat? Comme je l'ai dit, il y a quasiment 10 ans de ça maintenant.
Apiculture, c'est un de nos premiers clients, en effet. Donc, pour faire simple, c'est une boutique en ligne qui vend du matériel pour les apiculteurs, aussi bien professionnels qu'amateurs. Ils ont un catalogue qui va des pots de miel pour mettre ton miel quand tu l'as produit. Ça vend aussi des extracteurs à miel qui sont des espèces de grosses machines pour extraire le miel. T'as évidemment tout ce qui est les vêtements avec la fameuse combinaison cosmonaute. Ils ont des enfumoirs, donc ils ont toute cette gamme de produits destinés aux apiculteurs. Effectivement, quand on les a rencontrés, nous, le défi c'était d'émerger parce que c'était une boutique qui était une boutique historique en fait et qui vendait très peu en ligne mais qui avait un commerce classique en distribution B2B par catalogue. Et leur enjeu, c'était de rentrer dans le monde du e-commerce. Et c'était pas un gros acteur. Il y avait quelques gros acteurs qui étaient au-dessus d'eux. Et l'idée, c'était d'aller les taquiner en termes de visibilité sur les moteurs de recherche et sur les autres canaux marketing.
Et bon, vous prenez le compte en 2012. Et ouais, quel est le diagnostic? Ça. Quelle est l'analyse que vous faites à ce moment-là de l'organisation? Parce que là, on voit clairement dans quelle catégorie elle se situe. Mais son SEO, son référencement naturel, est-ce que c'était bon à l'époque? Est-ce que c'était bien monté ou il y avait beaucoup de travail à faire?
Il y avait beaucoup de problèmes, ouais. Les fondamentaux n'étaient pas là. Donc les balis de title n'étaient pas optimisés, il n'y avait pas de méta description, le balisage HTML était en vrac. Enfin, tout n'était pas complètement à jeter, mais il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas. En fait, ils avaient monté une boutique et ils n'avaient pas vraiment non plus pensé au SEO parce que de toute façon, ils ne connaissaient pas. Voilà, donc on avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de gros chantiers à lancer dès le début. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'était un peu pareil pour les concurrents à l'époque. Il faut se rappeler, on était en 2012. Hein. Alors évidemment, le SEO, ça existe depuis un moment, mais c'est pas aussi professionnalisé qu'aujourd'hui. Et donc, tu avais encore beaucoup de thématiques où les gens faisaient du trafic sans trop se casser la tête parce que comme personne n'optimisait, bah, finalement, Google il avait à trier entre des gens qui optimisaient pas. Et à la fin, même si tout le monde était mauvais, il arrivait quand même à positionner des sites, en fait. Voilà, donc nous on avait un espèce de boulevard pour aller faire monter apiculture.net en fait.
Et avant de parler un petit peu des premières étapes que vous avez mises en place, es-tu capable peut-être de nous donner des chiffres? Ça ressemblait à quoi le trafic organique à l'époque quand vous reprenez le compte?
Ouais, je pense qu'il devait faire c'est un peu loin dans ma tête tout ça, mais en fait il devait faire dans les 500 visites, peut-être 1000 visites par mois. Voilà, donc c'était quand même assez confidentiel comme trafic. Ils étaient assez peu présents sur les mots-clés transactionnels. En fait, comme ils vendent tout un catalogue de produits, type des ruches, ils étaient évidemment pas en première page sur ruches, achat ruches, vente de ruches, ruches pour apiculteurs. Donc tous les mots-clés qui étaient les plus intéressants pour générer du CA, ils y étaient pas. Et donc on avait un gros travail d'identification et d'optimisation pour les faire monter sur ces mots-clés-là.
Parfait. Donc on commence, il y a 500 visites. Donc effectivement, on part de très très bas. Habituellement, là, avant de rentrer vraiment dans le spécifique, de votre côté, donne-nous peut-être juste un échéancier. Combien de temps ça prend avant de commencer à avoir les premiers résultats en SEO si on met des choses en place? Est-ce qu'on parle davantage peut-être d'un 3, d'un 6, d'un 12 mois? Est-ce que ça peut être plus rapide? Est-ce que c'est plus long? Juste pour qu'on sache, ouais, habituellement, les premiers résultats, on va les voir en combien de temps?
Alors en fait, ça dépend vraiment de la configuration du client, du niveau d'optimisation du site, de son profil de lien et de son niveau de concurrence. Donc c'est très très variable. On a des résultats des fois en un temps assez court, en quelques mois. Et des fois, en fait, pour vraiment arriver à faire décoller le site, il nous faut plus d'un an. Sur des thématiques concurrentielles avec un site neuf, où tu as par exemple un catalogue qui est pas forcément assez fourni et le commerçant est en train de remplir des produits en même temps qu'il a lancé son site, où il y a pas de backlink par exemple, où le contenu est pas là, et plein de problèmes comme ça, tu peux mettre des fois plus d'un an. Ouais. Arriver à avoir vraiment des résultats qui sont rentables pour le site.
OK, donc parfait. Donc, on voit un peu combien de temps que ça peut prendre. Maintenant, on revient à apiculture ici. J'aimerais comprendre, 500 visites organiques, les fondamentaux sont pas mis en place. Par où qu'on commence dans ce cas-là? Par où qu'on commence? Est-ce qu'on commence davantage à créer une nouvelle, des nouveaux articles de blog, une nouvelle section pour les articles de blog? Est-ce qu'on commence directement à aller chercher des sites web à haut niveau de domaine d'autorité pour s'assurer que soyez capable d'avoir des redirections vers notre site? Quelles sont un petit peu les étapes à suivre dans des cas classiques comme ceux-ci?
Ben en fait, nous, on commence toujours par faire un audit parce que, comme tu le dis très justement, il y a plusieurs types d'actions et en fait, il faut identifier ce qui va être le plus, ce qui va faire le mieux levier en fait. Dans le sens où certains sites, tu vas avoir besoin de faire du contenu. D'autres, ils ont un contenu parfait. Certains ont un profil de lien qui est idéal. Et d'autres, c'est là où tu vas devoir pousser. Et en fait, l'audit te permet d'avoir une vue globale sur le site et d'aller chercher les points techniques à corriger, savoir si tu dois orienter sur le contenu, sur les liens ou sur d'autres choses. Et en fait, tu as un panorama de tes actions. Et en fait, nous, l'audit nous permet de faire un plan d'action sur 6 mois, 1 an et se dire, voilà par quoi on commence, avec une approche héroïste. L'idée, évidemment, c'est pas de se dire on fait un site parfait, c'est de se dire on fait un plan d'action qui va nous permettre le plus vite possible de dégager du résultat en termes de chiffre d'affaires. Donc, faut aussi identifier les mots-clés qui vont être le plus facile sur lesquels il est le plus facile de se positionner. Parce que le SEO ayant un temps long, tu as vraiment un enjeu fort aller chercher les actions qui ont l'impact le plus rapide.
Et là, tu m'amènes sur une transition assez intéressante. Quels sont ces leviers qui peuvent avoir un impact assez rapide? Dans le cas ici d'apiculture, quels ont été ces leviers?
Apiculture, une fois l'audit fait, on s'est rendu compte que le site manquait de backlink. Donc, une des premières actions, ça a été de faire des liens. Et après, on a corrigé des choses techniques. Et après, de mémoire, on a fait une refonte avec une agence web. Et là, on a remis une couche d'optimisation SEO, parce que tout n'était pas encore techniquement parfait. Et ça, de toute façon, ça l'est jamais, mais disons qu'on a fait un bon polish sur tout ce qu'il fallait faire. Mais c'est clairement les liens qui ont eu l'impact qu'on voulait, qui nous ont permis de faire décoller le site.
Est-ce que tu serais prêt à dire que tout ce qui est backlinking, Laurent, c'est habituellement ce qui va avoir le plus d'impact pour élever le niveau d'autorité d'une marque et ultimement être dans les premières pages de Google?
Je vais pas dire ça parce que on était en 2012 à l'époque. Donc les liens à l'époque étaient beaucoup plus puissants dans leur retour sur investissement qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, par exemple, sur la plupart de nos clients, on va plutôt commencer par le contenu pour être sûr que le contenu est en place. Quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, parce que des fois, on n'a pas le temps ou pas le budget pour faire à la fois le contenu et les liens. Mais ça nous permet de se positionner d'avoir le contenu qui va bien pour espérer se positionner sur les mots-clés qu'on cible. ce qu'on pouvait faire avant avec les liens et quasiment uniquement avec les liens, aujourd'hui, on peut pas le faire si on n'a pas un contenu qui va bien.
Intéressant. Et quand on parle de contenu, bon, on est d'accord, là, souvent, les gens vont penser rapidement à des articles de blog, mais c'est beaucoup plus que ça, surtout pour des boutiques en ligne. On veut des fiches de produits qui sont bien optimisées pour être certain d'être visible auprès de Google. Est-ce que dans un ordre de priorité, quand vous parlez de contenu de votre côté, on commence par A, fiche de produit, B, article de blog, C, page d'accueil? Est-ce qu'il y a une liste habituellement que vous suivez un petit peu plus qu'une autre?
Ouais, complètement. C'est une super question parce qu'effectivement, on commence par aucun de ces points-là. Nous, on commence par les pages catégories.
Okay.
Pourquoi? Parce que les fiches produits, en général, les commerçants savent déjà qu'il faut à peu près renseigner un peu de contenu sur tes fiches produits. Alors souvent, c'est pas forcément assez bien fait, mais ça a le mérite d'exister. La page d'accueil, dans la plupart des cas, a pas forcément un gros intérêt en SEO. Et le blog est pour moi un peu la cerise sur le gâteau de ce qu'on va faire en fin de mission quand on a déjà fait le reste. Et c'est pour ça que les pages catégories sont souvent négligées et que nous, on va commencer par ça. Je vais te prendre un exemple simple pour que tout le monde puisse comprendre le raisonnement. Si je prends par exemple achat de ruche, je vais acheter une ruche, un apiculteur, mais je vais taper ça dans Google. Et en fait, moi, ce que je vais arriver, c'est pas sur une page qui me présente une ruche, c'est sur une page qui me présente plusieurs ruches. Et donc ça, c'est typiquement la page catégorie. Et si j'ai pas de contenu dessus, aujourd'hui, c'est compliqué de se positionner. À moins d'avoir un site qui date de il y a 20 ans, avec beaucoup de liens, etc., etc. Mais si tu lances un site e-commerce aujourd'hui, t'as intérêt à avoir du contenu sur tes pages catégories qui s'intègre naturellement dans ta page. Et évidemment, un contenu optimisé, hein, pas juste du blabla.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Elite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse. Ou encore, venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Et parlant de contenu optimisé, quelles sont peut-être les meilleures pratiques à respecter? Est-ce qu'il y a un nombre de mots minimal? Est-ce qu'il y a une certaine structure à avoir au niveau de nos métadescriptions? Peut-être juste donner un aperçu un petit peu plus technique ou peut-être même tactique de cette fameuse phrase d'une page bien optimisée.
Ouais, tout à fait. En fait, nous, on va faire ce qu'on appelle une analyse de la SERP, donc de la page de résultats de Google. La catégorie, en fait, elle doit se positionner sur un nombre assez restreint de mots-clés. Si je vends une combinaison pour apiculteur, je vais avoir dans ma page catégorie, il y a plusieurs combinaisons. Je veux qu'elle se positionne sur ce mot-clé-là. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qui se passe sur la SERP. Et on a des outils qui nous permettent d'analyser le champ sémantique et donc d'avoir le champ lexical, en fait, que Google attend. Et de comparer celui des concurrents et de comparer un score d'optimisation. Tu as des outils comme YourTextGuru, 1.fr, Surfer SEO qui font ce travail-là et qui te permettent en fait de bien rédiger ta page, non pas en fonction de ce que toi tu as envie de mettre, mais en fonction de ce que Google attend pour les mots-clés que tu cibles.
OK, donc ça c'est clair ici. Parlons un petit peu maintenant de l'article de blog. Donc tu le dis, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Pour quelle raison tu dis ça? Est-ce que ça veut dire qu'un blog, c'est intéressant, important, mais pas essentiel? Et dans le cas qu'on a un article de blog, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça dans les dernières années, comme quoi que la fréquence n'était peut-être pas autant importante qu'avant. C'est mieux peut-être d'avoir 5 à 10 excellents articles de blog pendant une année que d'en avoir un par semaine qui n'est pas de grande qualité. Donc, j'aimerais ça savoir un petit peu le niveau d'importance de l'article de blog et par la suite, comment qu'on est capable de l'optimiser et de l'entretenir et sous quelle fréquence?
Ok. Alors pour moi, un blog, pour faire un blog, ça sert à rien. Okay. Et du coup, écrire des articles pour si tu n'as pas une stratégie globale en te disant, je veux cibler un certain nombre de mots clés avec mes articles. C'est comme si tu donnais un coup d'épée dans l'eau. Et en fait, quand on fait une stratégie de blog, on se dit toujours, le blog, il doit cibler des recherches informationnelles. Et c'est pour ça qu'il arrive en second lieu, parce que quand t'es en e-commerce, tu veux d'abord faire de la transaction. Donc, en fait, c'est tes pages produits et c'est tes pages catégories qui vont cibler des mots-clés transactionnels. C'est là où tu veux faire ton chiffre. Et le blog arrive derrière pour aller cibler des prospects qui sont un peu plus froids dans ton funnel de commande, dans ton funnel de vente, en fait, dans leur maturité. Et du coup, en fait, tu vas aller cibler des requêtes qu'ils ont d'informations sur tes produits, comment les choisir, comment bien les sélectionner et ce genre de choses. Et en fait, il faut que tu construises toute ta partie éditoriale, que ce soit un blog ou une partie de contenu de forme cocon, par exemple. En fait, il faut que tu la construises en fonction des intentions de recherche. En me disant, sur chaque fois que j'ai une intention de recherche, je mets un article en face et je fais en sorte que ça soit bien maillé. Et du coup, la question de la fréquence et de la quantité, elle découle de ça. Et au final, ça sert à rien de se dire, il faut que j'écrive 5 articles par mois ou 25 articles par mois. En fait, il faut couvrir le spectre des mots-clés que tu veux cibler. Mmh. Et après, le reste te permet de faire de l'entretien. Et du coup, tu vas pouvoir écrire des nouveaux articles pour alimenter régulièrement ton blog et que Google vienne te voir, mais tu as fait ton travail de couvrir l'ensemble de ton champ lexical et des requêtes informationnelles que tu voulais avoir.
Ok, intéressant. C'est bon à savoir ceci. J'espère qu'également, c'est bon pour notre audience. Parlons maintenant un petit peu. Et là, je te pose beaucoup de questions parce que c'est un sujet qui me fascine énormément. Ouais, le netlinking, bien connu également sous le nom de backlink. Donc ça, pour situer un petit peu notre audience, à peu près certain que tout le monde le sait, mais on va essayer de faire une petite présentation très simple. C'est d'avoir d'autres sites Internet qui mentionnent votre site Internet, que ce soit un article de blog, votre page d'accueil, peu importe quelle page. Et plus souvent qu'autrement, on s'assure que les gens qui vont être capables de nous référencer, nous envoyer un lien, c'est des gens qui ont un domaine d'autorité un petit peu plus haut que le nôtre. C'est comme ça qu'on va être capable de monter et surtout relier, et corrige-moi si je me trompe, Laurent, sur également peut-être du référencement spécifique que ces gens-là vont avoir. Donc, dans le cas ici, si on veut être référencé sur Ruche en France, disons, et je dis n'importe quoi ici, mais dans la même catégorie, si on voit qu'il y a un compétiteur ou un certain site Internet qui est situé très, très haut dans les moteurs de recherche et que cette même personne-là nous fait un lien par rapport à un mot-clé relié un petit peu à son domaine de référencement qu'on vient de mentionner, ça risque d'être quand même assez bon pour nous, ça.
Ça, c'est la situation idéale. Hein. Si tu as quelqu'un qui est un concurrent ou qui a un site dans la même thématique et qui est bien positionné sur le mot-clé que toi-même tu cibles, je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleur lien que tu peux avoir.
Et ces liens-là, comment allez-vous les chercher? Souvent, il y a des entreprises qui vont travailler avec des regroupements externes où est-ce qu'on va être capable d'acheter un certain nombre de liens. Est-ce que vous faites un travail davantage manuel à la mitaine d'envoyer des messages à certaines organisations pour avoir ces liens-là? Comment tout ça se met en place?
Alors, nous, on achète beaucoup, effectivement, via des plateformes. On fait un gros travail de sélection parce que faut savoir que sur les plateformes, tu as beaucoup de... On appelle ça des spots. En fait, c'est des sites sur lesquels tu peux acheter, négocier des liens. T'as beaucoup de spots et il faut trier parce qu'ils sont loin d'être tous bons. Il y en a qui sont overpricés, d'autres qui sont des pépites. Et donc, on fait un gros travail d'identification pour évidemment lier ton netlinking avec la thématique ou une thématique pas trop loin si des fois t'as du mal à trouver des liens. T'imagines bien que dans le monde de l'apiculture, on n'a pas non plus 10 000 sites qui parlent du sujet. Donc, on va aller pouvoir trouver des liens sur les jardins, sur les animaux, sur la nature, sur l'écologie. Et donc, on va trouver des thématiques qui sont proches. Et après, effectivement, il faut trier tes sites et contacter ceux qui t'intéressent. On fait assez peu de contacts directs parce que la rentabilité du temps passé n'est pas géniale. Ça, c'est plus intéressant sur des plus gros clients où tu veux chercher du lien vraiment spécifique, vraiment pointu, et tu as le temps d'y passer pour avoir un très bon lien. Voilà.
Donc, en gros, si je comprends bien, votre travail essentiellement, c'est stratégie, chef d'orchestre un petit peu de tout le travail qu'on pourrait appeler en anglais on-site, de ce qui va se dérouler sur le site Internet. Et par la suite, également une stratégie de netlinking, mais avec des partenaires externes, avec des regroupements, comme tu l'as mentionné, pour aller chercher certains de ces mots-clés-là en lot.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Intéressant, donc très bon à savoir. Donc, on a parlé des grandes lignes. Maintenant, parle-nous peut-être un petit peu de notre cas client du jour. Quels ont été les piliers de croissance? On commence à 500 visites par mois. Combien de temps que ça a pris? Augmenter le trafic, où est-ce qu'on s'est rendu après un an, peut-être après 3 ans, 10 ans plus tard? Est-ce que tu es capable de nous amener, de nous parler de ces différents piliers de croissance?
Ouais, en fait, au bout de 2 mois, on était en première page sur le mot apiculture. sur le nouveau matériel d'apiculture. Donc la croissance a été beaucoup plus rapide que ce que moi-même j'aurais anticipé. Et en fait, on a une croissance assez explosive la première année, puisque en première année, en fait, on arrivait globalement en quelques mois à se positionner à peu près en première page sur tous les mots clés stratégiques du type ruche, du type vêtements apiculteurs, du type qu'est-ce qu'on avait, les extracteurs, les maturateurs, enfin tout le matériel un peu technique. On identifiait des catégories qui étaient rentables pour le client, où il avait des beaux paniers moyens, et on y allait. Et en un ou deux ans, on était pas forcément dans le top 3 partout, mais dans les top positions. Et on faisait plus de 100% de croissance. Et en 2000, donc on a commencé en 2012. Et j'ai regardé les chiffres récemment là. On a franchi 1 million d'euros de CA en 2018 à peu près, quoi.
Uniquement juste organique.
Uniquement organique.
Oh, wow. Donc ça, c'est incroyable. En termes d'actifs numériques, c'est d'une qualité incroyable, parce que par la suite, on s'entend, et nous, on aime beaucoup, comme je l'ai mentionné en début de podcast, l'acquisition payante de notre côté. C'est un levier très rapide. Mais entre toi et moi, en termes de pérennité, il n'y a rien de plus fort que des actifs naturels, organiques, qui sont capables de grandir par eux-mêmes sans investissement d'argent, mais un investissement, bien entendu, de temps.
Ouais, c'est ça. L'avantage, effectivement, du trafic organique, du SEO, c'est qu'il est pérenne dans le temps. C'est-à-dire que même si tu arrêtes de travailler, en fait, à l'inverse d'une campagne AdWords, une campagne Facebook que tu vas couper, ben, il va mettre du temps à descendre. Et donc, t'as une sorte de... d'inertie qui est là en fait et qui te permet de tenir des mois voire des années avec ton référencement en fait. Donc tu construis quelque chose de solide qui reste.
C'est comme avoir une boutique physique en direct des Champs-Élysées un peu là.
Ouais,
avoir,
c'est ça, c'est exactement, t'as un bon emplacement quoi.
T'as un très bon emplacement qui est capable d'avoir un bail pour un certain temps. On va dire ça comme ça. Et j'aimerais savoir, donc bien entendu, vous avez atteint un degré de maturité. Félicitations d'ailleurs.
Merci.
Avec ce cas client-là, où est-ce que vous faites du chiffre? Vous êtes premier sur plusieurs mots-clés importants sur Google. Quand on atteint cette maturité-là, quel devient le travail? Est-ce que le travail est toujours le même? Est-ce qu'on a un nombre minimum de mots-clés qu'on va aller chercher par mois? Ou, comme tu l'as dit, peut-être c'est davantage un travail d'entretien? Je serais curieux de t'entendre ici.
Ouais. Alors, effectivement, aujourd'hui, on doit être à peu près partout dans le top 3 sur tous les mots-clés stratégiques et sur plein de mots-clés middle trend et long trend. Donc là, en fait, le potentiel de croissance, il est limité, mais on arrive quand même à faire de la croissance. Et effectivement, quand tu prends un client comme ça, où tout est à construire, tu mets plusieurs mois, voire plusieurs années, à poser tes fondamentaux. Et plus tu avances dans le temps, plus tu dois faire de l'analyse et aller chercher des leviers de croissance qui sont plus complexes à trouver. Et donc là, typiquement, par exemple, aujourd'hui, on fait une analyse assez spécifique sur le catalogue produit du client, pour voir les gammes où on a des mots-clés qu'on n'aurait pas forcément identifiés et où on serait mal classé. Et donc, c'est vraiment un travail un peu pointilleux, de quasi chirurgical, en fait. C'est, tu vas aller chercher un petit endroit où tu te dis, tiens, là-dessus, je suis que cinquième. Est-ce que je peux monter dans le top 3? Quel est le volume de recherche de ce mot-clé? Et donc, on va aller chercher de la croissance comme ça. Évidemment, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on a déjà fait le 80-20 en amont, en fait.
Exact. Et est-ce que peut-être dans un cas comme ça, maintenant, on est davantage rendu dans un contexte d'expansion géographique? Est-ce que ça serait ça peut-être un peu la prochaine étape de votre côté, ou on veut rester imprégné dans un positionnement national?
Alors, pour l'instant, c'est pas au... Faudra en discuter avec le client, mais c'est pas au programme. Voilà. On reste sur une zone française, on va dire.
Bon, fantastique. C'est des beaux résultats, Laurent, que vous avez été capable d'avoir avec ce client-là. D'autres très beaux résultats, d'ailleurs, qu'on peut voir sur votre site web. Si nos auditeurs aujourd'hui, nos directeurs marketing de boutiques en ligne, nos propriétaires de boutiques en ligne qui nous écoutent et qui se recherchent un partenaire pour leur référencement organique, pour leur SEO, où est-ce qu'on peut en apprendre un petit peu plus sur vous et quel est le meilleur moyen pour vous rejoindre?
OK. Alors, le site de l'agence, c'est valetudo.io, tout attaché. On est en train de le refaire pour nous-mêmes faire du SEO sur notre propre site. J'ai envie de dire, au bout de 10 ans, il serait temps. Et sinon, m'envoyer un mail à valetudo.seo, tout attaché, @gmail.com. On se cale un call et on discute de la problématique et du commerçant avec grand plaisir.
Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Merci. Laurent Brice, merci énormément. Ça a été très enrichissant parce que je le répète, c'est pas un sujet qu'on avait encore abordé sur le podcast. C'est un sujet donc fascinant. Pour moi qui fait de l'achat média depuis tellement longtemps, de me dire qu'on est capable de générer des 100 000 euros mensuels de chiffre d'affaires sans investir en médias payants pour cette catégorie précise-là, c'est quasiment irréel. Donc, assez fascinant comme sujet. On risque de continuer à en parler un peu sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Élite.